grand moulin avec ton terrible cortège.
It's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Groupir! Il faudrait le groupir! Qu'est-ce qu'il dit? Groupir!
Tout à l'heure, là.
Et toc, remonte ton scribard, Lothar.
Mais si!
L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
La percée de l'histoire.
La percée de l'histoire.
Ça commence maintenant.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de la percée de l'histoire du 16 avril 2024. Je suis Thomas Lebouc, bien évidemment, avec la voix un peu enrouée à cause du pollen. Super, j'adore ça. Mais ça n'empêche pas que je suis avec le grand, le magnifique Salouane Bedriss. Bonjour.
Bonsoir, bonjour, bon, je ne sais plus quoi dire, bonjour.
Comment que ça va-t-il là-dedans?
Bah, comment tu vas, toi, c'est la question, parce que cette voix-là, est-ce que c'est vraiment le pollen? Du tout la vérité.
Alors, si, si, alors au départ,
voilà.
J'ai fait ma remise de diplôme de master samedi
le
dernier.
Le problème vient de là.
J'ai un peu crié, mais maintenant, bon, l'eau a coulé sous les ponts, et la voix est toujours pas trop revenue. Donc c'est à cause de ça, ce qui se passe dehors.
C'est très bien.
Et nous sommes aussi en compagnie de Théophile. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va-t-il?
Ça va, ça va. Moi, je vis plutôt bien le rhume des foins.
Eh ben oui.
Il y en a qui ont de la chance.
Je m'en vante en plus.
Salouane, est-ce que toi, ça te fait quelque chose?
Moi, je suis allergie, mais allergie max. Ah. Donc c'est antihistaminique trois fois par jour, matin, midi et soir.
Ah oui, parce qu'autrement...
Sinon, c'est les yeux...
Oui,
comme des balles de golf, quoi. Et le nez qui coule, c'est pas la peine.
Et je t'explique pas le massacre. Bref, on va quand même faire cette émission. Et nous, et vous, dites-nous dans les commentaires si le rhume des foins, ça
alors,
vous fait un truc.
Alors, allergie ou pas?
Et pendant ce temps-là, pendant que nous sommes enrhumés, tétanisés, martyrisés, le journaliste historique, lui, il est jamais malade et il vient immédiatement. Et toi, Salouane, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce 16 avril dans le monde et dans l'histoire?
Alors, le 16 avril, on va rester au 20e siècle. Je ne vais pas remonter trop loin dans le temps. Avec la première date, le 16 avril donc, 1917. Offensive du chemin des dames. Le 16 avril 1917, le général Nivelle tente de briser la résistance allemande sur le front de l'Aisne, en lançant la désastreuse et dramatique offensive du chemin des dames. Le 16 avril 1922, un traité germano-russe de Rapallo. Le traité, en 16 avril 1922, en marge de la conférence économique internationale de Gênes, les représentants allemands et russes se rencontrent à Rapallo, une petite station balnéaire voisine de la capitale ligure. L'Allemagne et la Russie, grands perdants de la Première Guerre mondiale, souhaitent en effet sortir de l'isolement économique et diplomatique qui est le leur depuis la fin du conflit. Ensuite, dernière date, le 16 avril 1943, découverte du LSD. Le 16 avril 1943, le chimiste suisse Albert Hofmann, alors âgé de 37 ans, et employé dans les laboratoires Sandoz, aujourd'hui rebaptisé Novartis, à Bâle, s'injecte par mégarde un dérivé de l'acide lysergique, dont il était en train d'étudier les propriétés stimulantes. Il éprouve alors des sensations euphorisantes et des hallucinations. On découvrira plus tard leurs similitudes avec celles qui sont provoquées par l'ergot de seigle, un champignon qui contient aussi de l'acide lysergique et peut se retrouver dans la farine du pain, provoquant le fameux mal des ardents ou feu de Saint-Antoine, une maladie autrefois relativement fréquente. Cette découverte inopinée va ouvrir la voie à la drogue hallucinogène mythique des années 60, les fameuses années hippie, le LSD, lysergue sorge diathylamide ou diathylamide de l'acide lysergique. Elle sera promue aux États-Unis par un psychologue fantasque, conférencier à Harvard, Timothy Leary, qui décède en 1996. Voilà.
Merci beaucoup, Salouane, pour tous ces petits événements. Et quant à toi, Théophile, est-ce que tu peux nous annoncer les naissances et les décès du jour?
Oui, Alors, aujourd'hui, c'est la naissance d'Elisabeth Vigée-Lebrun, le 16 avril 1755 à Paris, qui est morte le 30 mars 1842, aussi à Paris. Donc, Elisabeth Louise Vigée-Lebrun est la première Française qui se soit illustrée dans la peinture. Amie de Marie-Antoinette, elle va devenir la coqueluche de l'Europe. Et je recommande sur ce personnage historique assez intéressant, car on parle très peu des femmes peintres, un documentaire qui s'appelle Le fabuleux destin d'Elisabeth Vigée-Lebrun, qu'on peut retrouver, qui a donc été diffusé sur Arte et qu'on peut retrouver également encore aujourd'hui sur la plateforme Amazon Prime. Et voilà, qui raconte assez bien toute sa vie. Donc voilà, dans mes souvenirs, elle a dû fuir la Révolution. Et toutes ses peintures ont été reconnues par la suite.
Bah, visiblement, voilà. Si elle est amie de Marie-Antoinette,
elle n'est pas dans le bon camp.
Oui, enfin, elle aurait pu tourner,
changer de bord.
Mais non, elle va rester royaliste. La suite des naissances, Anatole France, donc, qui est né le 16 avril 1844, bibliothécaire au Sénat. Anatole France témoigne dans ses récits, romans et essais d'un scepticisme aimablement rationaliste et d'une critique sociale acerbe et non dépourvue de lucidité. Les dieux ont soif, Crinkby, L'île des pingouins, donc voilà, c'est quelques noms de ses romans, de ses livres. Dreyfusard de la première heure, il se distingue de ses contemporains par son opposition à la colonisation. C'est également la naissance d'un grand réalisateur, acteur et grand réalisateur, Charlie Chaplin, le 16 avril 1889. Charles Spencer Chaplin est né à Londres dans une famille d'artistes du Music Hall. Son père étant mort alcoolique et sa mère devenue folle, il quitte Londres pour les États-Unis en 1912. Il va très vite s'épanouir dans le cinéma muet avec ses courts-métrages qui donnent, par la grâce du rire, une épaisseur humaine aux vagabonds et aux déshérités de la classe ouvrière. Il lui valent d'être baptisé Charlot par les Français. Je recommande également un film sur ce réalisateur qui s'appelle Charlie Chaplin avec, j'oublie le nom, j'y reviendrai peut-être plus tard.
Quand c'est Chaplin, regardez tous ses films.
Le dictateur.
C'est lequel votre préféré ?
Moi j'aime bien le nom. Je sais plus, c'est dans lequel où c'est parmi les premiers films muets où il est vagabond et il passe la nuit dans un centre commercial.
Ça ne dit rien.
Et il fait du roller. En fait, il y a un espèce de trou au milieu du centre commercial, c'est sur plusieurs étages, et il est en travaux et il fait du roller, il est vraiment à deux doigts de tomber et tout, et il finit par rencontrer une femme qui elle aussi est sans abri, et ils vont squatter entre guillemets comme ça le centre commercial, ils vont dormir dans les lits à des milliards d'euros, etc. Ouais. Il va finir en prison. Il y aura un petit sketch sur le trafic de drogue en prison, etc. Il va se faire bien voir des gardiens. Il va réussir à sortir. Et après, il va retrouver cette femme et ils vont vivre dans une petite cabane et tout.
Oui, c'est La Ruée vers l'or, c'est ça.
Et c'est ça. Mmh. J'adore ce film. Je le regarde souvent. Il est trop bien.
Je le regarde. Vous savez, la nuit.
Culture cinématographique.
Moi, j'aime bien The Kid.
Oui, ouais.
J'aime bien celui-là aussi. Et alors, avons-nous des décès marquants, Théophile ?
Oui, Francisco de Goya, donc Francisco de Goya y Luciente, est sans doute le plus grand peintre de sa génération. D'une remarquable longévité artistique, plus de 60 ans, il débute comme peintre de l'aristocratie heureuse du XVIIIe siècle. Ses premières œuvres se rapportent à des sujets légers de la société espagnole. Elles rappellent la peinture gracieuse de Fragonard, son contemporain. Il est aussi connu pour 13 des maillots.
Ça sera moins joyeux.
Oui, qui sera moins joyeux. Oui. Alexis de Tocqueville, né à Paris au numéro 987 de la rue de la Ville-Évêque, Alexis de Tocqueville est issu d'une vieille famille de l'aristocratie normande. Il compte Malherbe, courageux défenseur de Louis XVI, parmi ses aïeux. Lui-même est l'un des principaux penseurs modernes dans la continuité de Montesquieu. Il a analysé avec lucidité l'évolution des sociétés occidentales vers la démocratie au XIXe siècle. Paradoxalement, il est mieux connu et apprécié des Américains que des Anglais, que des Français. Pardon.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Et pour conclure ce petit journal, comme d'habitude, le saint du jour. Et c'est la saint Benoît-Joseph aujourd'hui. Un étrange saint qu'est Benoît-Joseph Labre, né dans l'Artois au milieu du XVIIIe siècle, il se fait chasser des couvents les plus stricts, comme la Trappe ou la Chartreuse. Il cherche Dieu en Italie, dans le vagabondage et la clochardise, sans jamais perdre sa joie de vivre. Il meurt à 35 ans, dans les ruines du Colisée, où il a élu domicile. Curieux que l'Église n'en ait pas encore fait le saint patron des sans-domicile, du coup. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on lui souhaite bien évidemment une bonne fête à ce monsieur. Et sans transition aucune, une petite pause musicale, bien sûr.
Toujours.
Avant la chronique de Théophile, qui s'intitule « Du rouge et du noir ». Alors, là, c'est le suspense est entier. Je vous sais
déjà de quoi il va parler.
Ah là là, bah moi, je ne sais pas. Alors, ne me spoile pas, s'il te plaît, parce que j'ai hâte de découvrir de quoi nous allons parler. En attendant, on s'écoute. Muse, Undisclosed Desire, c'est tout de suite, c'est maintenant sur Radio Alpa.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour sur 107.3 FM Le Mans, radioalpa.com, sur la percée de l'histoire, bien entendu. Et là, c'est l'heure, le moment que nous attendons tous, la chronique de Théophile. Théophile, vas-y, régale-nous.
Alors, une fois n'est pas coutume, je vais commencer cette chronique par une petite devinette.
Oulala.
Il existe à Athènes un cimetière antique. À votre avis, quel est son nom ?
Oulala.
Réponse A, le cimetière du Kebabos. Réponse B, le cimetière d'Onassis. Réponse C, le cimetière du céramique. Réponse D, le cimetière des tyrannoctones.
La réponse D.
Réponse D pour Thomas.
Ils sont morts à Athènes.
Attention, il y a le décompte là. C'est stressant.
Ouais, j'hésite entre la C et la D. Je vais dire la C, allez, pour changer.
Réponse C pour Salouane.
Ouais,
tu es sûr ?
C'est mon ultime bafouille.
Eh bien, bravo, c'est Salouane qui a raison. Oh, c'est le cimetière du céramique.
Oh, bah, dis et donc. Oui.
Les tyrannoctones, bravo, hein. C'est un groupe statuaire qui... ça aurait pu être le cimetière des tyrannoctones, d'ailleurs, effectivement.
Oui.
C'est un groupe statuaire qui représente ceux qui ont tué, justement, les tyrans à Athènes.
Yes.
Avec l'avènement de la démocratie, on en a fait une statue... Enfin, on en a fait. Les Grecs, on en fait une statue.
Oui, parce que nous, on n'a pas participé.
Niveau de statue, niveau
pas,
de sculpture,
hein,
on est très très...
Enfin, pas moi, en tout cas.
Bref, effectivement, c'est le cimetière du céramique à Athènes. Et donc, ça fait suite à ma chronique de la dernière fois. On continue notre histoire de la céramique, de l'argile. Et pour continuer cette histoire, imaginez que vous êtes au 5e siècle avant Jésus-Christ.
La belle époque.
Et vous souhaitez faire un voyage dans la plus belle, dans la plus grandiose de toutes les cités,
Sparte.
Alors, j'ai très envie de parler Salouane.
Attention.
Athènes. Athènes.
Parce que là,
d'accord,
tu vas énerver quelqu'un.
Ouais.
Vous avez revêtu un chiton, une tunique courte, et vous arrivez dans la fameuse cité par le nord. Vous marchez alors sur la route principale, et une immense nécropole borde chaque côté de la voie. Parmi les différents tombeaux ornés de splendides statues, vous apercevez un immense vase, haut d'1,55 m. Ce vase est décoré de différents motifs géométriques, comme des méandres qui sont sur toute sa surface. Et au centre de ce vase, de cet amphore, il y a une scène avec des silhouettes schématiques peintes en noir qui encerclent un personnage allongé. Il s'agit d'une scène que l'on nomme Prothésis ou Exposition du mort. Avant que le défunt rejoigne l'Hadès, c'est-à-dire les enfers, le mort était exposé et pleuré pendant plusieurs jours. Ensuite, il y avait un bûcher funéraire, et les restes étaient stockés dans une céramique et enterrés dans un tombeau, avec toute une collection de vaisselle afin qu'ils puissent boire et manger dans l'au-delà. Et oui, la mort, ça creuse. Pour en revenir à l'amphore monumentale qui est devant vous, elle est un exemple des toutes premières céramiques que les Grecs ont inventées, que l'on appelle des céramiques géométriques. Mais comme nous allons le voir, les Grecs vont se perfectionner et vont créer un style unique qui aura un succès durant toute l'Antiquité, autour du bassin méditerranéen et même au-delà. Mais reprenons notre visite. Après avoir traversé la nécropole, vous arrivez aux portes de la ville que l'on nomme Dipylone. Vous entrez donc par ces majestueuses portes et vous entrez dans un quartier que l'on nomme céramique. Vu que vous pratiquez le grec ancien depuis votre naissance, vous savez que keramikos signifie tout simplement argile. C'est donc là, dans ce quartier, que vous allez trouver de quoi vous procurer de la vaisselle pour vos futurs banquets. Il y aura de tout, de belles œnokoé pour abriter du vin, de grandes hydries pour conserver de l'eau, des cratères richement décorés afin de mélanger le vin, le miel et l'eau, car bien sûr, il ne se boit pas pur, et bien sûr de belles kilix, des coupes permettant de boire le précieux liquide. En arrivant dans le quartier, vous pouvez admirer les technicoi, c'est-à-dire les artisans d'art, les potiers, dont la maîtrise du façonnage de la terre vous laisse pantois. Directement au niveau de leurs échoppes, vous voyez les potiers tourner les pièces et vous êtes ébahi par leur pugnacité et la maîtrise de la matière. Les tours, cette invention égyptienne, vieille du 3e millénaire, permettent de réaliser des vases aux bords réguliers et harmonieux. Ils sont actionnés par les pieds du potier qui façonne dans le même temps la pièce avec ses deux mains avec beaucoup de dextérité. Je vous laisse imaginer la taille de ses mollets et de ses avant-bras. Il y a de quoi faire pâlir Héraclès. En continuant votre chemin, vous tombez sur une autre échoppe où là, vous voyez des dizaines de céramiques qui ont été cuites, mais qui n'ont pas encore reçu leur dessin et leur couleur. Un jeune homme, sûrement un apprenti, recouvre certaines parties de l'amphore d'une argile liquide de couleur brun foncé. Cet engobe a la particularité d'être chargé en oxyde de fer, ce qui permettra d'étanchéifier le vase. Cela donnera également, après la deuxième cuisson, une teinte noire brillante, assez profonde, qui est presque semblable à du métal. Le jeune apprenti colore avec délicatesse des personnages qui sont au centre du vase. On aperçoit Dionysos, Ariane et des satyres qui picolent dans une kylix et qui semblent elles aussi peintes en noir. La boucle est bouclée. Les personnages, après la dernière cuisson, se détachent du fond rouge qui n'a pas été peint. On nomme alors ces décors des figures noires. Mais vous remarquez que de l'autre côté de l'amphore, un homme qui semble beaucoup plus expérimenté fait exactement l'inverse du jeune apprenti. Il peint l'ensemble du décor en noir et laisse les silhouettes en rouge. Il ajoute quelques détails à Héraclès avec de l'engobe noire. C'est tout l'intérêt de cette technique que l'on appelle décor à figure rouge. Les personnages se détacheront encore mieux grâce au fond noir et les détails précieux pourront être ajoutés. Le peintre vous voit ébahi devant son travail. En bon grec, en bon commerçant, il fait un prix. Seulement 300 drachmes pour l'amphore. Est-ce que vous acceptez, Thomas Salouan?
Oui, j'accepte.
Ça fait un peu cher, non?
J'accepte, je vends tout.
J'hypothèque ma maison.
Bon, vous pouvez être heureux. Vous achetez donc la pièce, et c'est une pièce unique, signée et réalisée par le fameux peintre de Lysipidès. Bon, vous n'avez plus d'argent, mais quelle fierté. La céramique attique que l'on fabriquait dans cette région, dont Athènes fait partie, la plus belle et la plus puissante de toutes les cités, va rayonner bien au-delà des frontières de la Grèce. On retrouve notamment des céramiques attiques dans la tombe princière de Lavaux, en Gaule, du côté de Troie. Cette vaisselle, vous l'avez compris, était associée à la tradition du banquet que l'on retrouve également dans les rites funéraires. Les différentes scènes de vie qui sont peintes sur ces nombreux vases sont les principales sources visuelles qui nous renseignent sur la vie des Grecs, mais également sur leurs pensées. Il faut toutefois, bien sûr, prendre un peu de recul sur la véracité de ces représentations, car les Grecs incorporent véritablement des styles esthétiques, les obligeant à synthétiser, à ne pas être forcément toujours réalistes. Malgré tout, ils sont les premiers à dépeindre une certaine réalité du quotidien dans leurs œuvres d'art. Ils ont même un mot pour cela, c'est ce qu'on appelle la mimesis, l'imitation du réel. Les Romains, comme à leur habitude, vont emprunter les différents styles de céramique des Grecs. Certains technicoi grecs vont d'ailleurs migrer à Rome, une fois la Grèce rattachée à cette fameuse puissance, pour continuer leur activité. L'évolution de la céramique antique va évoluer en fonction des différentes cultures durant tout le reste de l'Antiquité. Il faut toutefois préciser une invention assez notable dans le monde de la céramique romaine, la sigillée. C'est une céramique très raffinée qui comporte des scènes en relief et qui était fabriquée cocorico en Gaule, pas loin de Lyon notamment. Bien sûr, l'histoire de la céramique ne s'arrête pas là, et je vous parlerai la prochaine fois de l'évolution de ce formidable matériau durant le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque industrielle.
La plus belle des périodes.
Eh bien, merci beaucoup Théophile. On a hâte, hein, vraiment, on a hâte de la suite, parce qu'à chaque fois, c'est un régal pour les oreilles, évidemment. Et on s'est acquéri en plus d'une poterie qui va super
cher. Non, mais 300 drachmes, quelle affaire.
D'autres comme ça, il n'y en aura pas, hein, de toute façon.
C'était à prendre ou à laisser. Là.
C'était à prendre ou à laisser, tout à fait. Et bien sûr, nous quittons pour une petite pause musicale proposée par Théophile qui s'appelle Bass, Aulos and Flute at Agai, Virginia. Au palais du roi Philippe II.
C'est ça.
Pourquoi ce choix de musique?
Eh bien, pour rester un petit peu dans la Grèce antique, l'aulos, c'est la flûte des Grecs, la flûte à double flûte avec hanche, et double hanche, justement. Donc voilà, c'est un son assez particulier que des archéologues...
Comme on va l'écouter tout de suite, immédiatement, sur Radio Alpa.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
De retour dans la percée de l'histoire, 107.3 FM Le Mans ou radioalpa.com. Et là, cette fois-ci, on passe d'un chef-d'œuvre à l'autre, j'ai envie de dire, à la chronique
écoutez-le,
de Salouane.
Écoutez-le.
Et qui donc, aujourd'hui, va nous parler de reconversion professionnelle.
Oui, j'ai repris mon emploi au manoir de la cour. Je vais
déjà
me rappeler à chaque émission, c'est tellement important. Visiter le manoir de la cour, c'est le plus beau lieu.
Qu'est-ce que tu fais déjà là-bas?
Beaucoup de choses.
Notamment.
La médiation, des visites guidées, des ateliers pour les scolaires, etc.
C'est
On
génial.
A pas mal, beaucoup de choses à faire.
J'en chialerai presque.
C'est un très très beau lieu. Et donc, je suis de retour là-bas et je travaille sur de nouvelles médiations. Et je me pose cette fameuse question de... Est-ce qu'on avait des expatriations? Je ne sais pas si le mot se dit.
Ou des expatriés, des personnes...
Oui, des personnes qui s'expatrient et donc qui vont vivre dans un autre pays avec leur culture.
Bien sûr.
Et je sais qu'on voit beaucoup ça aujourd'hui. Je suis pas mal de gens sur les internets de Français qui partent vivre au Japon 2 ans et qui reviennent après, ou le Québec avec le fameux visa PVT, etc. Je me suis dit, pourquoi pas regarder si ça se faisait dans l'histoire. Et je suis tombé sur un Claude Alexandre de Bonneval. Et donc, j'ai commencé à me fouiller un peu, à regarder un peu sa biographie, sa vie. Et je suis tombé sur un très très bel article de Billets de France. Donc j'avoue que je n'ai pas écrit moi-même cette chronique, par manque de temps, excusez-moi. Donc je vais vous lire cet article. Alors, Claude Alexandre de Bonneval est un officier français du XVIIIe siècle. Il est notamment célèbre pour avoir offert ses services au Saint-Empire, puis à l'Empire ottoman où il devient pacha. Là est la reconversion professionnelle.
Et quoi qu'est-ce, un pacha?
Alors un pacha, je vais tricher pour vous donner une vraie définition, pacha, empire, ottoman. Voilà, ça vous donne déjà une borne géographique. Donc le mot pacha, mot turc probablement issu du persan, padisha, parfois importé en français sous sa forme allemande, pacha, ou anglais, bachao, était dans l'empire ottoman ou au Maroc, un titre de noblesse de haut rang accordé notamment au gouverneur des provinces. Donc pacha égale gouverneur. C'est pas n'importe qui dans la société ottomane. Alors, je reviens à mon Claude Alexandre de Bonneval. Grandi en France, il devient commandant en chef des armées du Saint-Empire après avoir quitté la France. Puis, il finit par débarquer dans l'Empire ottoman, où il va finir par changer carrément d'identité et se convertir à l'islam. On revient sur son début de vie. Donc, il est né le 14 juillet 1675. Il grandit dans une vieille famille de la noblesse française du Limousin. À la mort de son père, il est placé dans un collège de jésuites avant d'intégrer la marine à 13 ans, grâce à un certain maréchal de Tourville. Après s'être distingué au combat de Dieppe, de la Hougue lors de la guerre de la Ligue d'Augsbourg et de Cadiz en Espagne lors de la guerre de succession d'Espagne, Bonneval quitte la marine et s'engage dans le régiment des gardes. À ce titre, il sert en Italie et se fait remarquer à la bataille de Luzara par le prince Eugène de Savoie, commandant en chef de l'armée autrichienne. Ayant fait défection à Louis XIV, Bonneval se voit récompensé de ses capacités militaires par le commandement d'un régiment. Malheureusement, les relations avec les ministres de la guerre sont compliquées et poussent Bonneval à quitter la France une première fois, craignant d'être arrêté en 1704. On change de zone géographique, on arrive dans le Saint-Empire romain, germanique, qui est tout l'espace à l'est de la France, on va appeler ça comme ça. Donc c'est aujourd'hui l'Allemagne, l'Autriche, une partie de... On peut carrément aller jusqu'à une partie de la Russie. C'est vraiment tout le centre de l'Europe.
Et le Benelux, Belgique, Luxembourg.
D'une mer à une autre, donc d'une mer au sud à la mer au nord. C'est vraiment tout cet espace-là. Donc il voyage en Italie la même année et se lie d'amitié avec le marquis de Langalry, qui, d'ancien lieutenant général de France, est passé au service de l'empereur. Mais Bonneval hésite, même si ses chances de rentrer en grâce auprès de la cour de Versailles sont minces. Réflexion faite, il choisit de suivre la voie de Langalry, celle de rompre son engagement et de porter les armes contre la France, sous la bannière autrichienne. En se souvenant de la bataille de Louzara, le prince Eugène lui offrit un poste dans l'armée du Saint-Empire. En 1706, il prend part à différentes batailles contre la France, ce qui lui permet d'obtenir le grade de général. Il combat également les Ottomans en aidant à la prise d'Alexandrie en Égypte. En 1708, Bonneval reçoit le commandement d'un corps de troupes afin d'intervenir en Italie pour contraindre le pape à reconnaître les possessions de l'archiduc Charles. Bonneval sera blessé par un des gardiens du pape. Il participe aux batailles contre l'Empire ottoman, dont la victoire de Peter Warden en 1617. À la suite du décès de Louis XIV et la fin des poursuites contre lui, il rentre en France, se marie une première fois avec la fille du maréchal de Biron. Ses relations avec le prince se détériorent et pour cause, il se moque de son entourage. Envoyé aux Pays-Bas, Bonneval montre un caractère particulièrement difficile à supporter et se querelle avec le gouverneur régional. Suite à des propos désobligeants, Bonneval organise une campagne d'affichage contre le dit gouverneur de la province qui est soutenu par le prince. Il se retrouve condamné à la peine de mort pour outrage et injure publique. Malgré l'affection que lui porte l'empereur, ce dernier aménage sa peine à une année de prison et à l'exil.
Ça va.
Oui, il a eu de la chance. Il a eu beaucoup de chance. Hein. Désormais sans emploi et sans titre, Bonneval retourne en Italie, à Venise. De là, il prend contact avec l'Empire ottoman pour proposer à ses anciens adversaires ses services en 1730. Depuis Venise, il rejoint la Turquie et envoie une lettre au prince Eugène, lui notifiant sa décision. Il ôte son chapeau pour le turban, change son identité pour s'appeler Ahmed et se convertit par la même occasion à l'islam. Bonneval obtient le titre de Pacha, titre généralement accordé aux gouverneurs de province. Fort de son prestige militaire, le sultan lui confie le commandement de l'artillerie turque. Ses expériences militaires européennes lui permettent d'apporter un certain nombre de changements stratégiques dans l'armée ottomane. Outre la transmission de la connaissance des bombes et de l'artillerie européenne, son objectif est d'uniformiser l'ensemble des troupes du sultan. Par ses fonctions, il contribue directement à la défaite autrichienne à Niche et au traité de Belgrade de 1739, par lequel l'Autriche perd des territoires, dont une partie du nord de la Bosnie et une partie de la Serbie, dont sa capitale Belgrade. Malgré les succès contre l'Autriche et la Russie, le sultan ne l'autorise pas à accomplir ses désirs d'uniformiser, de peur que cela ne favorise des révoltes. Mais le comportement de Bonneval et son passif ne convainc pas une bonne partie des milieux de pouvoir qui voient en lui une personne peu fiable. À Constantinople, il rencontre des officiers étrangers, dont un viennois avec lequel il entretient de bons rapports. Il est probable que ses contacts l'aient poussé à revenir potentiellement en Europe et à reprendre du service pour la France. Malheureusement, Claude-Alexandre de Bonneval décède peu après le 23 mai 1747 à Constantinople d'un accès de goutte avant de pouvoir mettre en œuvre ce retour.
Eh bien, et merci beaucoup.
Donc, oui, quelle vie. Sur un espace géographique assez restreint, il a quand même pas mal bougé et il s'est beaucoup battu. On est sur un bon militaire.
Voilà, le type, il a fait ça tout le temps.
Ouais, et quand on a un portrait de ce fameux Claude-Alexandre de Bonneval, et c'est vraiment le turban, la barbe, c'est...
Ah bah, il fait comme il faut.
Il est dans le personnage.
Écoutez, soit on fait tout, soit on fait rien. Parce qu'autrement, ça sert à rien.
Et voilà, donc j'ai ma fameuse réponse, oui, on avait des gens qui s'expatriaient, qui changeaient carrément de plusieurs fois de pays, il y avait... C'était pas des mondes fermés, quoi. Tout le monde bougeait.
Peut-être ça concernait une certaine catégorie.
Oui. Oui.
Peut-être pas que le tout venant venait à bouger tout le temps.
C'est pas, il y a pas ce côté espace fermé, oui, voilà, les uns monde, contre ouais, les autres. Il y avait quand même beaucoup de déplacements et ce fameux changement culturel entre guillemets où bah il est passé de français à ottoman.
Il n'y a qu'à regarder le siècle des Lumières, qui est là où on voit un échange d'artistes et d'auteurs dans toutes les cours d'Europe.
Eh oui, exactement.
Tout à fait.
Et là, c'est vraiment le côté entre Europe, France, et le côté Moyen-Orient, Proche-Orient. Avec
des mondes en contact.
C'est vraiment, ouais.
Eh bien, écoutez, sur ces belles reconversions, on s'écoute une nouvelle chanson qui s'appelle Words de David. Très connu, hein. Les mots ne sont pas faciles, dit-il. Eh bien, nous l'écoutons immédiatement, c'est tout de suite, hein. C'est maintenant. Words.
La percée de l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa.
Nous sommes sur la percée de l'histoire pour le dernier carton. Ça y est, c'est le moment. C'est bientôt fini. Et on termine avec un quiz. Le quiz exceptionnel, hein, jamais vu.
Réponse B.
Réponse B, réponse A. Il y aura 4 réponses proposées à chaque question.
Très bien.
Une seule est bonne, bien évidemment. Vous pouvez jouer chez vous, sur les réseaux sociaux, tranquille, dans les villes, dans les campagnes. Vous vous démerdez. En attendant, c'est parti. C'est un quiz sur les révoltes. En quelle année ont eu lieu
1789.
La révolution, les révolutions même.
1830.
Russe.
17.
1916. 1906. 1912. Ou 1917.
1917, mais il y en a eu d'autres avant. Et elles ont échoué. Et en 1917, c'est la suite.
Alors, c'est une bonne réponse. 1917, ouais. C'est une très bonne réponse. Mais il y a deux révolutions la même année. Qui ont toutes réussi. Hein. Février 1917, la chute du tsar.
Ouais, et après.
Et octobre 1917, les bolcheviks arrivent. avec Lénine et tout le tralala.
Mmh. Ah oui, il est rappelé, je crois, c'est ça.
Je sais pas,
oui,
il y a
parce
plein
que
de
Lénine, temps, Lénine ouais. Il a tenté une première fois, je crois que c'est 1900.
Bah, février 17, il a voulu s'imposer,
non,
mais
même
ça s'est
avant,
mal fini.
Encore avant, avant la Première Guerre mondiale, il y a déjà
une première révolution
qui fait trembler
il
le
s'est barré
le
en
tsar.
Allemagne, je crois. Ouais.
Et après, ouais, mmh. Lénine est obligé de partir.
En Suisse ou en Allemagne, ouais.
Et après, les bolcheviks le rappellent en 17.
Je crois qu'on les a aidés, d'ailleurs. À revenir, à faire revenir Lénine en Russie. Bref, bonne idée. En quelle année, alors bravo, hein, bonne réponse déjà. En quelle année eut lieu la révolte de la Commune de Paris ? En 1789 ?
Oui.
En 1871 ?
Oui.
En 1914 ?
Oui.
Ou en 1941 ?
1871.
C'est la réponse B, mon cher Jean-Pierre.
Eh bien, tout à fait, c'est la réponse B. Alors, du coup, petit contexte. La commune, c'est quoi ?
La guerre franco-prussienne.
Oui, tout à
on
fait.
On la perd à Sedan, on va dire ça comme ça.
Bah, il y a eu une grande défaite.
Grande défaite à Sedan. L'empereur est fait prisonnier. Les troupes prussiennes proclament l'Empire allemand à Versailles.
Yes.
Guillaume Ier devient Kaiser.
Yes.
Et donc, il y a une occupation allemande, première occupation allemande du territoire. Et donc, fin d'un gouvernement, il en faut un nouveau, une nouvelle république, Gambetta, Le Mans, la fuite en ballon, etc. Mais, problème, c'est que la commune de Paris, la ville de Paris...
Ne veut pas rendre les canons.
C'est ça. Il y a des petites bisbilles avec le nouveau gouvernement, donc ils décident de s'organiser en commune.
Parce qu'ils ne les trouvent pas assez radicaux.
C'est ça, ouais, c'est ça. Ils veulent pas. Du coup, ils s'organisent en commune. Ils veulent continuer à se battre. Au final, bon, bah, on voit les résultats assez rapidement. C'est que bah, Paris devient complètement ville assiégée. Personne ne rentre, personne ne sort. Donc, bah, très vite, le manque de nourriture, le manque d'eau. On finit par manger les animaux du zoo de Vincennes,
oui,
exactement.
Vrai. Les pauvres.
Au restaurant, on avait du chien, de la viande de chien, de la viande de chat, de la viande de rat à manger.
Enfin, pour les riches. Hein,
pour les riches, ouais, voilà. Parce que les pauvres, c'était de trois lavets et du topinambour, quoi.
Entre rien et pas grand-chose.
Et tout ça se termine par la République qui envoie l'armée française régler l'histoire.
Bah, le massacre dans le Père-Lachaise, quoi.
Dans un petit main de sang, ouais.
Oui. Massacre des innocents.
Voilà.
Oui, mais t'oublies toutes les avancées sociales qu'il y a eu entre, malgré tout.
Oui, bah oui, on s'en souvient... Bref. Qui. Alors, bravo. Question suivante. Qui a entrepris la marche du sel ?
Ah ben,
réponse A. Nasser.
Non.
Réponse B. Lénine.
Non.
Réponse C. Mao.
Non.
Réponse D. Gandhi.
Gandhi.
Oui, c'est Mahatma Gandhi.
Ah, c'est Gandhi, tout à fait. Alors, la marche. Pardon. La marche du sel, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, figurez-vous. Que les Indes, comme on les appelait, étaient une colonie britannique. Et tous les consommateurs devaient payer l'impôt sur le sel.
La gueule.
C'est un peu ça, quoi. Donc les gens, ils n'étaient pas contents. Et bah, du coup, ils ont décidé de fabriquer leur propre sel. Ce qui n'a pas du tout... c'était interdit, hein, évidemment. Ça n'a pas enchanté les autorités coloniales britanniques. Mais il n'y a pas eu d'effusion de sang parce que Gandhi et sa clique étaient partisans de la désobéissance civile et non de la guerre frontale, si vous voulez. Question suivante. En quelle année a commencé la guerre civile en Espagne ? Réponse A, 1856. Réponse B, 1896. Réponse C, 1926. Réponse D, 1936.
C'est la réponse D, mon cher Jean-Pierre.
C'est votre ultime bafouille ?
C'est mon ultime bafouille.
Ah, il est trop fort.
Beaucoup d'argent.
Il est intestable. Et pourtant, je ne lui ai pas montré le questionnaire, hein, je vous assure.
La guerre civile, c'est...
Oui, en 36.
Ouais. Ouais, 36,
oui,
39.
D'ailleurs, qui était... avez-vous fait espagnol
si.
Au collège ? Eh bien, figurez-vous que c'était...
Sprachdeutsch.
Un bichet.
C'était au programme d'Histoire des Arts, parce qu'on voyait Guernica.
Oui, exactement.
Donc, du coup, on faisait toute l'histoire de la guerre civile, c'était sympa. Et ben voilà que ça s'est fait en 36, quoi.
Ouais, 36, 30,
et 39. Et qui porte qui au pouvoir ?
Francisco Franco. Ouais.
Bravo.
Qui a fait ses premières armes, on va dire, au Maroc, en massacrant beaucoup de monde. Donc, il a commencé très tôt à faire du mal.
Oui, bah, écoutez, quand on commence, on finit presque jamais. Ouais, quoi. Voilà.
Son petit aparté, son tombeau, si on peut appeler ça comme ça, Valle de los Caídos,
oui.
C'est pas très très loin de Madrid. Si vous voulez regarder sur Google ou sur Internet, vite fait, en fait, il y a une énorme croix.
Ouais, c'est immense.
Qui dépasse, c'est vraiment immense. La montagne, ils l'ont coupée et ils ont mis une croix qui fait la place de la montagne, qui prend exactement la même taille.
Et le fronton aussi qui est énorme.
Ah ouais, c'est immense, vraiment. Immense. C'est... Ça donne une idée de l'ego qu'avait ce type.
Ouais. Et qui est mort quand ?
Oh, ça, c'est une bonne question.
Ah.
Non, il est resté tard au pouvoir. Ouais. Il est resté très, très tard. La monarchie, les Bourbons, ils sont revenus. Je crois que c'est les années 80, 90.
C'est 75 qu'il est mort, il me semble. De tête, hein. Je l'ai pas là, mais bon. Et d'ailleurs, en parlant des années 70, et ça sera notre dernière question, de quel pays s'est déroulée la révolution des œillets en 1974
Irlande.
En Grèce, réponse A. Au Portugal, réponse B. Aux Pays-Bas, réponse C. En Yougoslavie, réponse D.
Quelle année ?
74.
En Grèce, je dirais.
En Grèce pour vous ?
Ah.
Très bien. Et vous, monsieur Bindris ?
La Yougoslavie, ça me parle.
Ah, toi, tu te sens yougoslave, là, tout de suite, tu te dis...
Mais ouais, je sais pas pourquoi, ça me... Les œillets, ouais. Vois ça en Europe du milieu, là.
Ok, du milieu, là-bas, on sait pas trop. Grèce d'un côté, Yougoslavie de l'autre. Eh bien, écoutez, messieurs, c'est totalement faux.
Voilà, c'est le Portugal.
C'est perdu, c'est Portugal.
Je le savais.
Eh oui. Donc, la révolution des œillets du 25 avril 1974, qui est donnée aux événements d'avril 1974, qui a entraîné la chute du dictateur Salazar.
Oui, Salazar.
Qui dominait le Portugal depuis 1933.
Oui.
Quand même.
Oui.
Et c'est d'ailleurs les dernières dictatures d'Europe.
Oui. Mais avec Franco, je crois que c'est ceux qui ont gardé le pouvoir le plus longtemps.
Oui, parce que même en Grèce, justement. Il me semble que c'est après, enfin la dictature des colonels, comme on l'appelait, a été chassée avant, il me semble. Mais alors, pour avoir la date précise, je ne me rappelle plus. Je recherche la vite fait. Dictature des colonels.
Petite anecdote.
74 aussi, d'ailleurs.
Petite anecdote sur Salazar.
Dites-nous.
Il avait interdit les allumettes.
Et pourquoi ?
Donc pendant... presque 20 ans, je crois, qu'il n'y avait pas le droit d'avoir des allumettes au Portugal, parce que ils étaient déjà comme aujourd'hui, donc avec le petit bout rouge.
Oui.
Et c'est vraiment la couleur qui est importante. C'est parce que d'un côté, le rouge rappelait le rouge communiste,
oui,
donc on
n'en
voulait pas. Et de l'autre côté, allez savoir pourquoi, ça lui rappelait le rouge de Coca-Cola et donc les Américains, donc ils n'en voulaient pas non plus.
Oh ouais,
donc il a vraiment interdit et il y a eu des répressions très très sévères pour possession de boîtes d'allumettes.
Purée.
Donc il y a eu des gens qui sont morts pour avoir des allumettes sur eux avec le fameux petit bout rouge.
Alors le communisme, je le voyais venir, mais Coca,
le Coca est donc tout le soft power américain, etc. Mais ouais, faut le faire quand même. C'est là que tu vois que le dictateur, son pouvoir,
c'est pas gentil d'être méchant.
Ça tient à rien, quoi. Ouais.
Ah ouais, truc de dingue.
Jusqu'à interdire des allumettes. Donc il y a eu une avancée du briquet, et aujourd'hui beaucoup de collectionneurs ont c'est très facile de trouver des briquets anciens du Portugal, parce que forcément, il n'y avait pas le choix, fallait des briquets. Quoi. C'est assez drôle d'en sortir.
Il fallait pas qu'ils soient rouges.
Oui, non, que pour les allumettes. Tu pouvais avoir un briquet rouge, mais les allumettes rouges, c'est aller savoir pourquoi.
C'est sur cette anecdote, mais alors transcendante, parce que là, vraiment, on a appris quelque chose, qu'on va se quitter, malheureusement. Merci, messieurs, d'avoir été là.
Merci.
C'était exceptionnel. Je crois que c'est la meilleure émission qu'on ait jamais faite.
Oui.
Un petit coucou à Simon et Gauthier qui nous écoutent. On les embrasse de là où ils sont.
Bon courage.
En Bretagne et à Grenoble. à Guichen et à Grenoble. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Écoutez, j'espère avoir recouvré ma voix d'ici
là. Même jour, même heure.
Et puis, même jour, même heure, même chaîne. Salut, quoi. Et puis, surtout, portez-vous bien. Attention au pollen. Et puis, bonne semaine. Salut.
À la semaine prochaine.
Bonne soirée.
Nancy, c'est une révolution.
Je vous ai compris.
I have a dream.
Dégradation !
Rentre ici, Jean Moulin.
Avec vos terribles cortèges.
That's one small step for man.
Ich bin ein Berliner.
Au pire.